Et bonjour, vous êtes bien sur FM+, bien la radio du festival qui n'est pas la Radio France. Voilà, hein. Je suis un peu masochiste comme attitude, mais enfin bon, bref, c'est ça. Donc FM+, le 91.00 à Montpellier. Vous pouvez nous appeler, je crois que je n'ai pas dit encore, donc 04 67 03 28 39. Et puis, si vous ne pouvez pas nous appeler, si vous ne pouvez pas nous écouter directement, mais vous pouvez vous jeter sur le site internet de la radio, www.radiofmplus.org, ou vous nous écoutez sur Facebook ou sur Twitter. Voilà, alors aujourd'hui, eh bien, vous avez reconnu, nous allons parler à nouveau du Festival de Radio France. Donc aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance d'avoir à notre micro Jean-Pierre Rousseau, qui est le patron de ce Festival de Radio France depuis quelques années. Et nous avons la chance de lui poser un certain nombre de questions autour de la pérennité du festival et de tas d'autres choses. Jean-Pierre Rousseau, 34e année de festival. Vous, j'ai un doute, 4e ou 5e ? 4e.
C'est le quatrième. Ouais, j'étais là en 2014, donc c'est le quatrième.
Voilà. Alors depuis ces 4 ans, et sachant que le précédent, M. Le Pavec, était resté 4 ou 5 ans, pas plus, hein, ouais. 3 ans même, d'accord. Est-ce que vous estimez que vous commencez à marquer votre territoire, j'ai envie de dire, prendre, entre guillemets, gros guillemets, l'héritage de Koering, et puis commencer à mettre une petite, un petit essai Une petite remarque, Rousseau.
D'abord, je ne raisonne pas en ces termes. Je ne commence pas. J'ai pris mes marques dès le début. Et je ne me positionne pas par rapport au passé, par rapport...
C'est un terme d'évolution.
Je suis dans la filiation du dans la continuité... Mais chaque festival, jusqu'à maintenant, a apporté une touche de nouveauté, d'originalité, des choses en plus, des choses qu'on ne faisait pas avant. Je ne sais pas si c'est la touche Rousseau, mais oui, c'est ce que j'ai toujours fait là où j'ai travaillé avant et ce que j'ai envie de faire. Ne jamais rester en tout cas sur ses acquis. Ça, c'est clair que... tant que j'aurai la direction du festival, ça ne sera jamais statique et se reposant sur ses lauriers.
D'accord. Alors, 18 jours, 60 lieux dans toute l'Occitanie. J'ai noté bien, hein, 320 solistes, 175 concerts, 10 orchestres. Ça fait une belle somme, tout ça. Hein.
C'est la performance du festival. Mais il faut pas, c'est pas juste pour la performance. C'est vrai qu'on peut aussi aligner les chiffres. Moi, mon but, et c'est peut-être là que c'est une nouveauté par rapport aux années antérieures, et pour une raison simple, c'est que depuis 2 ans, le festival a doublé en surface, oui. puisqu'on travaille sur toute la région Occitanie. Et à l'époque, on m'avait dit « Oh, mais ça va être compliqué. » Ou alors « Vous allez quitter Montpellier.
Enfin, » Oui, alors voilà, c'est la question d'après. Hein.
Il y a eu toutes ces histoires complètement infondées. Bon, on ne quitte pas Montpellier. On fait une centaine de manifestations à Montpellier dans sa métropole. Donc ça, de toute façon, le festival il est ancré à Montpellier. Il restera à Montpellier. Et personne ne peut émettre le moindre doute là-dessus. En revanche, le fait qu'on ait un nouveau territoire à conquérir, ça, c'est une opportunité fantastique pour nous. Parce que ça veut dire que le festival doit aller le plus loin possible dans la région pour être au plus près de ses habitants. Moi, ce que je veux, c'est que chacun dans la région, où qu'il soit, se dise qu'il y a un concert pour lui, pas très loin, et que le festival, c'est pas une... grosse machine réservée aux métropoles, à Toulouse, à Montpellier, ou à Perpignan, aux grandes villes.
D'ailleurs, dans Toulouse, il n'y en a pas beaucoup, hein, si je m'abuse.
Non, il n'y en a pas cette année, mais parce que Toulouse n'est pas configurée de cette manière-là. On n'a aucun problème de collaboration avec Toulouse.
Non, mais je n'en doute pas, c'est juste pour...
Mais, par exemple, là, Logrin est fermé pour travaux, donc on peut difficilement aller y faire un concert. Mmh. Voilà, donc c'est absolument pas un problème d'équilibre. En revanche, on est présent cette année dans des lieux où on n'est jamais allé, grâce au projet Scarlatti. Et à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, puisqu'on va fêter le 25 juillet les 20 ans de l'inscription des chemins de Saint-Jacques français à l'UNESCO. Donc la marque, c'est celle-là, c'est aller au plus près de ceux qui attendent la musique. Pas déshabiller nécessairement Montpellier, qui est très privilégié et qui le reste, et c'est juste, mais porter aussi la musique vraiment partout où elle peut aller.
D'accord, sachant qu'il y a des lieux, des départements où c'est un peu plus dur pour y aller, le Lot par exemple, ou des choses comme ça, ça demande des gros déplacements, par exemple.
Ben, c'est dur pour qui ?
Ah ben, pour les gens sur place qui n'ont pas de concerts et pour le festival qui se déplace.
Eh bien justement, l'idée c'est que le festival doit être au plus près des gens. Donc justement que ce ne soit pas un festival lointain. C'est après, comment on se débrouille nous,
c'est autre chose. Sens, hein.
Alors ce qui est vrai, c'est que le festival n'agit pas tout seul. Et ça depuis longtemps. Partout où on va, on n'arrive pas en disant bonjour, on débarque, on est le festival Radio France. On travaille en collaboration avec des collectivités, avec des festivals locaux. Et c'est particulièrement efficace parce qu'ils sont très heureux de ce partenariat. C'est pas le gros qui mange le petit, c'est vraiment le gros, en l'occurrence nous, qui avons les moyens, la structure, d'apporter à une plus petite structure, pas moindre sur le plan artistique, notre savoir-faire et la possibilité d'inviter peut-être des groupes ou des solistes d'une certaine envergure. Parce que ça, c'est la nouveauté aussi, peut-être la mienne. C'est que les artistes, on essaie de leur faire vraiment des tournées à l'intérieur du festival.
Oui, oui, c'est clair ça.
Pour qu'on ne dise pas, bah, tenez, ça, il vient juste à Montpellier, puis après, rien. Et ça, ils sont tous partants en plus. Tous. Il n'y en a pas un qui a dit une seule fois, ah non, j'irai pas là. Et donc, on peut parfaitement imaginer, ce qu'on fait déjà, c'est qu'il y a des concerts qui ne se fassent pas à Montpellier, mais qui se fassent, par exemple, plutôt dans les départements de l'ouest de la région. Sans que ça pose un problème. C'est toujours le festival et c'est toujours porté par la même ambition artistique.
Bien, alors on va faire une parenthèse. Vous avez parlé tout à l'heure. Bon, il y a eu des remous du côté de Radio France et France Musique, le directeur qui est sorti rapidement par la porte, qui vous soutenait fortement le festival, parce qu'on avait vu, entendu. Il y a une nouvelle salle pour faire des concerts, et en particulier l'été, du côté de Radio France. J'ai pas trop entendu la nouvelle directrice de Radio France parler du festival, honnêtement, j'ai pas entendu. Et puis la région qui vous avait un peu laissé tomber, puis qui a remis les sous, et qui, bon, alors tout ceci, quand on mélange tout ceci, sans tirer sur qui que ce soit, qu'est-ce qui va se passer dans les... Alors je crois qu'il y a eu un contrat qui a été re-signé, me semble, non ? Et qu'est-ce qui va se passer dans les années suivantes ? Voilà,
fait un ordre. Je ne reprends pas du tout à mon compte ce que vous avez dit. Hein.
J'en doute pas.
C'est pas comme ça que les choses se font.
Oui, mais bien sûr. Non, mais...
Le soutien à Radio France, il est complet, entier. La nouvelle présidente a accepté d'abord la coprésidence du festival.
Oui, oui.
Donc si elle n'était pas... si elle était réservée par rapport au festival, elle n'aurait pas accepté d'emblée. Et elle est venue à la conférence de presse qu'on a tenue à Paris le 16 mai. Elle est venue présider la soirée d'ouverture ici à Montpellier. Et je crois qu'elle a tout à fait conscience de la force du festival et de son importance pour la région et pour Radio France. D'ailleurs, c'est simple. Ici, on ne désigne le festival que par Radio France. Mmh. Partout dans la région.
Absolument.
Donc, mais essayez de vous imaginer une campagne de publicité qu'il faudrait payer pour qu'on dise autant de fois Radio France dans le vocabulaire courant.
Bon,
bref. Et puis je crois qu'elle a conscience, comme ses prédécesseurs, du fait que on en a, j'allais dire, pour son argent, c'est-à-dire que un sou investi par Radio France, par la région, qui est quand même le plus gros contributeur, par la métropole, par le département de l'Hérault, c'est vraiment des sous investis dans la culture, dans l'accès à la culture pour tous. Je rappelle quand même que 85% des concerts sont gratuits.
Absolument.
Donc ça, alors moi, je n'ai aucun doute là-dessus. La région, elle ne nous a pas laissé tomber du tout. La région, elle a, comment dirais-je...
Il y a eu quelques tergiversations l'an dernier.
Non.
Qui ont été vite résolues, mais qu'il y en a eu. On ne peut pas dire...
C'est pas des tergiversations.
Des interrogations, en fait, de la part d'élus.
Non. Non, il n'y a absolument pas. Il y a eu un ajustement des subventions. Il n'y a jamais eu une perte d'engagement de la région. Mais il faut aussi comprendre que la nouvelle région, le nouveau conseil régional, était en droit de se poser des questions sur la pertinence des subventions qu'on verse à droite et à gauche.
C'est sûr.
Donc moi, je comprends parfaitement cette démarche qui consiste à dire, mais attendez, les choses ne sont pas automatiques. Bon, moi, je constate simplement, c'est que 2018, la subvention restait exactement identique.
À 2017.
À 2017.
Ouais.
Qu'on a signé une nouvelle convention de 3 ans, région, métropole.
Dans 18 ou 19 20. D'accord.
Donc pour tirer... il y a une année blanche qui était, ouais, 2017, parce que il fallait refaire un travail, ouais, de rédaction, etc. Mais ça veut dire en clair qu'il y a un engagement fort
sur 3 ans.
Sur les 3 ans qui viennent. Voilà, ça nous met aussi à l'abri, il se trouve qu'il y a des échanges politiques, etc. Ça nous met aussi à l'abri de ces soubresauts-là. Et d'ailleurs, le festival, si le festival dure depuis 35 ans, c'est quand même qu'il a une force supérieure à la conjoncture politique et au changement de droite.
Il y en a eu beaucoup de changements.
Voilà, ben c'est ça la force du festival. Et moi, je fais en sorte que le festival ne soit pas un enjeu politique. Le festival, c'est un enjeu artistique.
Il a été pendant quelques temps, mais bon.
Oui, mais c'est...
C'est fini, c'est passé, d'accord.
Avec moi, en tout cas, avec moi, ce n'est pas le cas.
D'accord. Alors, voilà. Pour ce qui est des subventions pour 2018, vous avez à gros la même chose que l'an dernier.
Exactement la même chose.
D'accord, parfait. Très bien.
Donc, je suis un directeur heureux. Il n'y a pas de réduction. Je sais bien que ça ferait bien de jouer un peu les catastrophistes. Mais nous, ce n'est pas le cas. On a un budget, on a une visibilité sur le budget, on a un budget qui est en équilibre, on a un budget qui va très bien, avec lequel on travaille très bien. Et moi, c'est pour moi très important, on rend des comptes chaque année, à notre conseil d'administration, et chaque année, le résultat du budget est meilleur que ce qu'on a prévu.
D'accord, c'est bien.
Voilà, donc, dont acte.
Vous venez d'écouter donc Jean-Pierre Rousseau, le patron de ce festival de Radio France qui, je vous le rappelle, cette année a comme sous-titre Douce France. Et d'ailleurs, vous avez pu écouter eh bien, un morceau de musique que d'ailleurs vous avez pu entendre durant le festival, c'est-à-dire le concerto pour deux pianos et orchestre de Francis Poulenc. Et là, vous avez le premier mouvement. C'est François-René Duchâble, Jean-Philippe Collard, l'orchestre de Rotterdam dirigé par James Conlon, et c'est un enregistrement erato. Et c'est le début de 1996, oui, l'enregistrement, et c'est le début du premier mouvement. Donc vous avez écouté ce morceau-là et maintenant donc je vous propose d'avoir un deuxième interprète donc autour de ce micro. Il s'agit de Jeff Cohen. Alors Jeff Cohen, on le connaît pas mal puisque c'est un interprète un peu américain. Il va nous expliquer tout ça. Qui était présent donc pour ce festival et qui nous a fait un programme qui s'appelle justement Douce France. Enfin, c'est pas lui qui l'a fait intégralement, mais il y a participé. Programme du dimanche 15. Et dans ce programme Douce France, eh bien, nous allons pouvoir écouter, vous allez pouvoir écouter, eh bien, Isabelle Georges, qui est une merveilleuse soprano. Et nous allons écouter eh bien, en particulier à bicyclette et maintenant la fameuse chanson Douce France. Et vous écouterez au milieu quelques petits morceaux de Hollander et de Fernand de la Trombelle. Jeff Cohen, quand on regarde un peu votre nationalité, vous êtes américain, et vous ne seriez pas devenu français des fois par hasard ?
Ben, je suis devenu français, oui. Voilà. Si je pouvais vous interrompre, je l'aurais dit, mais voilà, j'ai gardé le passeport américain, mais je suis devenu français en 92.
D'accord,
Ça fait un petit moment.
D'accord. Alors ce qui est assez étrange, vous êtes arrivé en France, vous avez travaillé au conservatoire à Paris. Est-ce que vous aviez déjà travaillé aux États-Unis ?
Oui, bien sûr. Enfin, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. Mm-hmm. Et puis je voulais étudier la linguistique. Et j'étais allé à l'université d'Oberlin, ça s'appelle, c'est dans l'Ohio, mm-hmm. où il y a à la fois l'université et aussi un conservatoire. D'accord. Et puis j'étais pas sûr vraiment quel chemin j'allais prendre. Et pour faire une année de libre, enfin Erasmus, on appelle ça maintenant, j'étais venu à Paris et voilà, j'y suis encore.
Ouais. Voilà. Alors vous avez en France travaillé avec, j'ai vu deux quand même, deux sacrés profs ou pianistes, Reine Giannoli, qu'on a beaucoup oublié, et Geneviève Joy, qui était Madame Dutilleux. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ces deux dames ?
Magnifique, vraiment mm-hmm. magnifique. Geneviève Joy, d'abord ma prof de piano, donc Reine Giannoli, elle avait enregistré l'intégrale de Schumann, pour ceux qui ne savent pas, et une petite dame toute spirituelle et douce et très musicienne, et malheureusement ma deuxième année au conservatoire, elle a eu un cancer et elle est morte ma troisième année. Donc c'est son assistante Suzanne Roche qui nous a aidés jusqu'à la fin. Geneviève Joy était ma prof de musique de chambre. D'accord. Et je l'adorais et je crois que c'était réciproque. Et j'ai pu donc déjeuner parfois chez elle avec son mari. Et donc j'ai pu voir lui à ses 90 ans. Elle aussi j'ai revu après. Enfin c'était toutes les deux, donc Reine Giannoli et Geneviève Joy, des inspirations. Geneviève Joy dans l'humour je dirais et... une légèreté de vie, mais pas du tout par rapport à la musique. Vraiment une grande déchiffreuse et connaisseuse, mais tout ça avec un point de vue qui était tellement agréable, surtout à l'époque, vraiment très ouverte.
D'accord. Et vous avez une idée pour quelle raison Reine Giannoli a disparu de... Je sais pas, on n'écoute plus ou on n'en entend plus parler ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Il y a quelque chose là. Schumann est toujours à peu près à la mode.
Oui, c'est vrai.
Mais bon... Ces interprétations sont datées, je ne sais pas.
Non, je ne pense pas. C'est, les connaisseurs parlent d'elle toujours. Je pense qu'elle était elle-même assez modeste. Mm-hmm. Et je ne sais pas si je dis que voilà, c'est une femme. Je ne sais pas, elle a fait sa carrière comme elle a pu, je pense. Mais je ne sais pas plus. Mais je pense surtout parce qu'elle était modeste. Elle ne cherchait pas d'être une star.
Ce n'était pas Yvenat de l'autre.
Oui, voilà, oui. Non,
par exemple.
Non, non, voilà. Rien,
voilà. Et après, j'ai vu, vous avez travaillé avec Léon Fleischer.
Oui.
Alors, rien à voir.
Non, non, non. Ben, c'est-à-dire, je suis rentré, donc j'ai quitté le conservatoire, c'était en 79, j'ai terminé, et puis je suis rentré aux États-Unis, je m'étais dit, je ne vais jamais plus revenir en France.
Pourquoi ? Il y a une raison particulière ?
Ben, les choses étaient bien différentes à l'époque. Absolument. Et c'était tellement traditionnel à la fois. Le conservatoire, je ne vais pas parler de la France, mais bon, c'était. Oui. Les choses étaient. Tellement différente des États-Unis à l'époque. C'est vraiment après, aux années 80, beaucoup de choses ont changé. Bon, bref, donc j'avais l'intention de rester aux États-Unis et je suis rentré dans ma ville natale qui est Baltimore, où Fleischer habite toujours, où il vivait déjà. Et j'étais revenu au conservatoire où j'avais commencé, mais même petit, le Peabody, ça s'appelle. Et j'ai auditionné pour sa classe. J'ai pris des cours en privé et j'ai assisté à ses masterclass pendant toute l'année. Et j'ai travaillé donc pour avoir l'équivalence de mes les diplômes américains avec le prix du conservatoire, ça a pris une année en entière. Et à la fin de l'année, quand on m'a dit maintenant, c'est Hélène Fleischer qui m'a dit que je pouvais être dans sa classe, j'ai dit je ne peux pas rester. Si je reste, c'est fini. Et je suis parti. Voilà.
D'accord. Parce que là aussi, c'est un tempérament complètement différent. Il est c'est, comment dirais-je, j'ose pas dire violent, je dirais. Peut-être, c'est peut-être un peu exagéré, mais il a un caractère très, très fort.
Oui, oui, et 10 doigts avec une énergie incroyable.
Même si pendant longtemps, il a joué qu'avec une seule main.
À l'époque, il ne jouait qu'avec une main. Et ce qui était étrange, c'est que plusieurs de ses étudiants avaient des problèmes comme lui. Et je pense que ça peut être...
Et c'est quoi alors?
Je n'ose pas dire, dire que ça. C'était psychologique, parce que ça, c'est facile de dire ça. Il avait tellement cherché. Ce qui était beau, c'est que beaucoup plus tard, il a réussi à surmonter ça. C'était même avec une seule main, il jouait ce qu'on ne peut pas faire avec deux, la plupart des gens. Mais il était plus pianiste que pédagogue. Et donc, il y avait des stars pianistes dans la classe et ça m'a fait tellement peur.
Il y a des gens qui sont connus?
Peut-être plus aux États-Unis. Je me souviens en tout cas d'une fille, Catherine Jacobson, je crois que ça s'appelait, qui était aussi à Oberlin quand j'y étais, donc l'université où j'avais été avant. Donc j'étais content de la retrouver, et qui est devenue donc sa femme, la femme de Fleischer, qui est jusqu'à aujourd'hui sa femme. Et c'est magnifique quand ils viennent tous les deux à Paris, j'essaie de les voir. Enfin bon. Non, mais les stars de piano, oui, beaucoup de gens sont passés par lui. Donc j'ai eu juste cette période d'une année. C'était effectivement très contrasté du conservatoire, de l'enseignement à l'époque, comme je dis, assez traditionnel à la française. Je pense que j'avais besoin d'aide, de conseils pour casser ça, pour trouver un chemin à moi. Il n'a pas trop aidé ça, il a écouté.
Ah oui,
il
était traditionnel, j'ai envie de dire. Hein.
Oui, c'était différent. Mais par exemple... Je donne un exemple, c'est terrible, alors que c'est vraiment un grand, grand musicien, mais il voulait, un jour, il me met des poids sur le poignet, hein, vous savez, comme les sportifs, de 5 kilos chaque main, pour faire des gammes en octave. Et j'ai dit, ça ne vous gêne pas, j'aimerais pas tellement faire ça. Je pensais que je ne veux pas finir avec un problème de tension dans la main.
Je n'appartiens à personne, mon cœur n'est pas un captif. Ce qui me plaît, je le donne, je le reprends sans motif. Si j'aime un brun et que passe un blond aux tendres aveux, le brin m'obsède et me lasse, et c'est le blond que je veux. Qui j'aime, problème, je ne sais moi-même, mon cœur est bohème, toujours charnel, cruel, je suis infidèle. Je vais où m'appelle l'amour, les cris, les coups, les prières, les larmes, rien ne me désarme. Je vibre, mais je reste libre. Promesse, richesse, rien ne m'intéresse. Si ce n'est l'ivresse d'un jour, s'il est vrai que je suis belle, rien que pour cette raison, pourquoi serais-je fidèle? Pourquoi pas mes trahisons? Lorsque dans la nuit profonde, l'étoile brille à nos yeux, n'est-elle pas à tout le monde comme la mer et les cieux? Qui j'aime, problème, je ne sais moi-même, mon cœur est bohème, charnelle, cruelle, je suis infidèle, je vais où m'appelle l'amour. Les cris, les coups, les prières, les larmes, rien ne me désarme. Je vibre, mais je reste libre. Promesse, richesse, rien ne m'intéresse si ce n'est l'ivresse d'un jour.
Mais à la suite, j'ai travaillé avec quelqu'un vraiment à l'opposé. Et ce monsieur était à Londres, il vient de mourir, il s'appelait Peter Feuchtwanger. Mm-hmm. C'était grâce à un copain, collègue pianiste qui était de Bâle, qui est de Bâle, Suisse, que je connaissais en Europe, qui m'a dit vraiment avant d'arrêter, parce que je voulais arrêter complètement.
Ah oui, complètement.
Oui, il m'a dit essaye, va à un stage à Sion, en Suisse. Et c'était avec ce monsieur, Feuchtwanger, et qui avait des notions très, bon, à la fois traditionnelles pour la discipline, mais complètement nouvelles pour moi, vraiment un vrai, vrai, vrai pédagogue qui cherchait, qui changeait ses idées selon qu'il y avait devant lui. Magnifique, absolument magnifique.
Alors maintenant, quand on regarde ce que vous êtes devenu, prof de lead au conservatoire et puis aussi chef de chant. Alors ça fait partie quand même des choses un peu particulières. Chef de chant, après être passé chez Léon Fleischer, c'est pas le trajet direct.
Non, c'est vrai, je ne sais pas comment ça s'est fait. Tout s'est fait un peu par hasard, je pense. J'aimais toujours, quand j'étais petit, j'ai fait de la comédie musicale aux États-Unis. Donc j'aimais le chant, le théâtre, j'aimais les langues. Comme j'ai dit, je voulais être linguiste. Et donc ça fait que tout ça est un peu dans l'opéra quand même. C'est là, en rentrant en France, que je n'allais pas faire, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, c'était pour travailler avec Colin Serrault sur un film qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on attend pour être
voilà,
heureux ?»
c'est ça.
Et dans le film, il y avait des musiciens, il y avait des danseurs, et il y avait quelques chanteurs classiques. Une d'eux était à l'école de l'opéra, ça s'appelait comme ça, c'est l'académie de l'opéra aujourd'hui, et elle dit « Ah, tu sais, ils cherchent des profs. » J'ai dit « Non, les écoles, c'est terminé, je veux pas. » Elle a assisté, j'ai commencé avec 3 heures, ensuite 6, ensuite 12, et c'est un peu comme ça que tout ça, ce chemin-là a commencé. Voilà.
D'accord. Alors, quand on regarde vos disques, on est je ne sais pas comment classer tout ça, hein. Ça part dans tous les sens. Alors, il y a des mélodies. Alors, j'ai trouvé Saint-Saëns, Godard. Alors, le nouveau, tout le monde s'est énervé, Fernand de la Tombelle.
Oui, oui.
Alors, celui-là,
Moi non plus, je sais voilà. Ce qu'on a fait, mais bon, je ne pourrais pas vous dire autre chose. Vous pouvez lire le livret. Si
voilà,
vous
voilà. Donc, Lalo, Benaïm, bon, pas très connu non plus, un peu, mais bon. Alphen, Cosma. Oui. Et alors là, on commence à attraper l'endroit où vous êtes devenu le spécialiste, c'est-à-dire accompagner des chanteurs et des chanteuses. Alors donc, on peut en citer, qu'est-ce qu'on peut citer ? Birkin, Bartoli, c'est ça ? Anania ? Alors, d'autres musiciens, Portal, j'ai vu aussi.
Oui,
je
ne
me rappelais pas de ça.
Non, il y a très longtemps.
Voilà. Voilà. Donc, comment vous situerez ? Arrangeur, pianiste, compositeur, accompagnateur, tout ça, mais...
Musicien.
C'est tout.
Vous voyez, ce que j'allais vous dire tout à l'heure aussi, je considère que tout ça, ça fait partie de la même chose. J'aime la musique, j'aime les gens, donc j'aime travailler avec les autres. Et comme j'ai grandi avec la comédie musicale, quand je sors un peu de la musique classique, comme pour ce concert ici à Montpellier, je suis tellement heureux, parce que je trouve que c'est moins, entre guillemets, sérieux.
C'est sûr.
Mais bon, il faut quand même jouer les bonnes notes.
Mais
hein.
Quand même, oui, bien sûr.
Non, mais bien sûr. On m'en a dans les plans. Là.
Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, vous êtes, c'est une certaine, alors, je ne sais pas comment il faut dire, je mettrais le mot américain là au milieu.
Je ne sais pas si c'est ça.
Vous ne pensez pas?
Non, parce qu'il y a des Américains qui sont complètement cloisonnés.
On est d'accord, on est bien sûr.
Avant, j'aurais dit ça, vraiment, en arrivant aux années 70 peut-être, mais je pense que tout a beaucoup changé, les gens sont plus ouverts et... Tout est différent. Moi, j'aime bien varier. Comme je dis, j'aime des gens. Alors, Isabelle Georges et Frédéric.
Oui, ça fait longtemps que vous les côtoyez.
Pas trop longtemps, non, mais ils sont adorables. Et puis, j'aime ça.
C'est Sainte-Brie que vous côtoyez depuis plus longtemps, il me semble.
Isabelle Georges, plus longtemps. Mais depuis quelques années, grâce à la radio d'ailleurs, elle a remplacé quelqu'un pour un récital autour de Corn Gold. Et c'est au dernier moment. Et puis, depuis, moi, je suis très reconnaissant.
Amoureux de la voix, donc.
Oui. Mais de la musique, hein. J'aime la musique de chambre, j'adore.
Oui, vous en faites beaucoup.
J'aime les gens, et j'aime la musique.
Ça, j'ai compris. Alors, le programme de demain, c'est qui l'a composé, ce programme?
C'est surtout Isabelle et Frédéric, donc Isabelle Georges et Frédéric Steinberg. Et ils ont demandé à 3 arrangeurs différents de prendre ces chansons qu'ils avaient choisies et puis de les arranger.
Les chansons étaient imposées, plus ou moins.
C'était eux qui ont choisi.
Ah, c'est eux qui ont choisi.
Voilà. On avait plus de choses qu'on a, voilà, on a diminué peu à peu. Même au Nouvel An, on a fait ce concert à Pau avec l'orchestre là-bas.
Et c'est pour ça qu'il y a l'orchestre de Pau.
C'était un projet d'abord.
Je n'ai pas compris comment ils arrivaient au milieu. D'accord.
Oui, d'accord. Je pense qu'Isabelle et Fred avaient déjà travaillé avec eux. Et donc, ils ont demandé à 3 arrangeurs, ce qui est aussi très intéressant parce que ça fait 3 styles malgré tout différents. Ça se rapproche, mais bon, évidemment, pour tous les mêmes instruments. Et c'est très intéressant. Je pense que je représente le pianiste classique avec Roland Romanelli qui a l'accordéon.
Oui, mais alors l'accordéon aux États-Unis, c'est pas tellement à la mode, si?
Non, peut-être un jazz. C'est pas comme ici pour la chanson qui est tellement emblématique. Et surtout Roland qui était donc l'accordéoniste de Barbara, qui est très. C'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir partager la scène avec lui, avec toute cette carrière. C'est vraiment très, très beau.
Nous avons pleuré bien des pleurs et ces larmes comme un orage versent les épis ou les fleurs. A battu notre courage. Alors nous sentions dans la nuit des nuages lourds de colère. Mais une étoile, une autre, pour s'éclaire. Et pour notre cœur abattu, pour la fleur d'amour.
Voilà, c'était donc M. Jeff Cohen, magnifique pianiste. Et d'ailleurs, je vous ai fait entendre comme petit morceau de l'interview. Et à la rentrée, je vous ferai entendre l'intégralité de cette interview qui fait plus de 20 minutes. Voilà. Alors, vous avez entendu donc à l'intermédiaire entre les deux interviews, les deux causeries de M. Hollander, qui est extrait d'un disque que monsieur justement Jeff Cohen a fait avec Isabelle Georges. Ce disque a comme titre Vienne, Paris, Hollywood. Et Isabelle Georges est bien sûr accompagnée au piano par Jeff Cohen. C'est un disque Harmonia Mundi de 2017. Et pour terminer, vous avez écouté un disque qui est tout à fait récent de Fernand de la Tombelle, qui était un compositeur, un poète, un sculpteur, 1854-1928, et on a entendu des œuvres, alors il est très peu connu évidemment, et c'est quand même de la très très belle musique française. Donc vous avez écouté une mélodie qui s'appelle « Les larmes », et là vous avez entendu le baryton Tassis Christoyanis, et donc au piano Jeff Cohen, et c'est un disque aparté de 2017. Alors avant de nous quitter, rapidement les petites choses que vous pouvez voir lundi 16 et les jours suivants. Alors sachez qu'à Montpellier, Salle Pasteur, à 18h, vous aurez le trio Vanderer. À la Salle Pasteur aussi, vous aurez Victor-Julien Laferrière, violoncelle, avec Jonas Vito. C'est à 12h30, donc il faut un peu se dépêcher. Ensuite, vous avez la suite de Scarlatti 555, vous savez, les fameuses 555 sonates. Alors à 14h à 16h, à Perpignan, au Palais de Justice. Ensuite, à 17h30, une conférence de Frédéric Haas qui a programmé tout ça. Et l'après-midi, à 19h, au Théâtre Municipal, 2 concerts à 19h et à 21h avec Enrico Baiano et Justin Taylor. Voilà. Et ce soir, donc, pour terminer, donc, lundi 16, à l'Opéra Berlioz, vous avez Iberia, donc vous pouvez écouter du Lequeux, à l'Adieu pour cordes, du Beethoven, le concerto numéro 4, Iberia de Debussy, le Tricorne de Falla, avec Béatrice Rana au piano, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Christian Arming, très bon chef. Donc à 20h, c'est de ce côté-là du Opéra Berlioz, et c'est en rapport avec l'exposition Picasso. Alors si on veut faire rapide, eh bien, il y a des choses à voir mardi 21. Et toujours pareil, les 555 sonates de M. Scarlatti, un extrait évidemment, pas tout. Et vous aurez mardi 17 à 18h30 un magnifique concert de Michel D'Alberto au piano qui va nous jouer du Liszt, mais pas que, il y aura aussi du Franck et du Debussy. Et à 21h, vous aurez également l'autre pianiste de la journée, Nelson Gerner, qui va vous jouer du Chopin, du Brahms, du Schubert et du Poulenc. Voilà, ceci termine notre émission pour la journée. Je vous remercie et à bientôt.